Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. Espace Art Actuel, To Go et Présence Information Religieuse. Au programme, l'espace au féminin. Le jardinage, c'est bon pour le moral. Et ma foi décantée. Bonne écoute.
L'espace au féminin, un texte d'André-Louis Paré, paru dans le numéro 130, hiver 2022, de la revue Espace Art Actuel. Les industries cinématographiques russes et états-uniennes se sont lancées récemment dans une rivalité concernant la sortie d'un film dont quelques scènes furent tournées dans la Station spatiale internationale, SSI. Même si la SSI a souvent servi de modèle dans différents scénarios de films depuis sa mise en orbite en 1998, c'est la première fois que des équipes de tournage ont le privilège de se rendre à l'intérieur d'un des modules pour y tourner en apesanteur. Parallèlement au tourisme spatial, devenu accessible pour les richards de notre planète, le cinéma populaire offrira bientôt au public cinéphile la chance de voir leurs vedettes évoluer dans un décor inédit situé à environ 400 km au-dessus de nos têtes. Du côté russe, le rôle principal du film a été confié à Lulia Peresild, tandis que chez les États-Unis, c'est Tom Cruise qui en est la vedette. Ayant devancé de quelques jours la production américaine et en privilégiant une femme dans le rôle principal, les Russes commémorent en quelque sorte l'exploit de Valentina Terechova, la première femme astronaute à s'être retrouvée en 1963 autour de la Terre à bord du vaisseau spatial Vostok 6. À la suite de ce vol en orbite basse, réalisé 2 ans après l'exploit de Yuri Gagarin, Terechkova deviendra le porte-drapeau du régime soviétique et le symbole de la libération de la femme dans le monde socialiste. C'est donc dire que la rivalité avec les États-Unis, identifiée par l'appellation « guerre froide », se transposait également sur le terrain de la supériorité du régime soviétique en matière d'émancipation des femmes, dont l'objectif semble être la libération de tâches attribuées à l'espace domestique. Mais il faut en convenir, cette propagande soviétique sur la modernité féministe demeurait sous l'apanage d'un autoritarisme d'État. Ainsi, de part et d'autre, ces deux régimes aux idéologies politiques opposées ont démontré à leur début peu d'enthousiasme quant à la présence des femmes dans l'espace. Aux États-Unis, le projet Mercury 13, dont le but en 1961 était de former 13 femmes pour aller sur la Lune, a rapidement été mis à l'écart par la NASA. Malgré les données statistiques qui démontraient l'égalité des femmes à entreprendre ce type de mission, ce projet n'a pu être mené à terme. Dans l'histoire de la conquête de l'espace, on retient l'aventure d'Apollo, ce programme qui a offert la chance à 12 hommes de marcher sur la Lune. Dès lors, la rivalité politico-militaire qu'entretiennent ces deux superpuissances met trop souvent en sourdine d'autres aspects de notre capacité d'imaginer notre rapport au monde extraterrestre. Certes, la recherche fondamentale sur l'origine de l'univers, prétendument neutre, sera toujours importante, mais l'aspiration à imaginer le cosmos ne peut-elle pas engendrer d'autres visions possibles misant sur des sensibilités culturelles diverses? Souvent confinée à des visions dictées par des intérêts militaires et commerciaux, l'histoire des programmes spatiaux semble, en effet, restreinte à la domination impériale et économique des superpuissances mondiales. Pourtant, c'est à un tout autre horizon que s'est élaboré ce dossier de la revue Espace Art Actuel. Dirigé par Marie-Pierre Boucher, ce dossier, intitulé « Féminisme spatial », rassemble différents textes visant à repeupler l'imagination spatiale avec des projets artistiques construits depuis des perspectives féministes. Ainsi, l'Agence spatiale européenne, en collaboration avec Mattel Inc., fabricant de la célèbre poupée Barbie, a beau vouloir séduire une nouvelle génération de jeunes filles grâce à un jouet à l'effigie de l'astronaute Samantha Cristoforetti, ce numéro tente surtout d'élargir le débat sur des enjeux sociétaux. Aussi, bien que le texte de Jessica Ragazzini ait beau souligner l'influence que peut avoir l'aventure spatiale dans l'univers très lucratif de l'industrie de la haute couture, associé à celui des vedettes internationales de la chanson ou du cinéma, il souligne également les efforts déployés par la créatrice de mode et artiste néerlandaise Harris van Herpen pour inscrire ses créations au sein de revendications féministes et écologiques. Misant sur des démarches artistiques moins spectaculaires, les textes de Lexington Davis, Michael DiRisio et Evan Moritz, différents dans leur style et par le choix des œuvres, dénoncent, sous de multiples perspectives, toute forme d'impérialisme et de colonialisme en matière d'exploration spatiale. Sous la gouverne d'un discours uniforme sur la conquête de l'espace, ces œuvres critiquent un monde extraterrestre qui ne serait que le reflet de la situation sociopolitique de notre planète, avec ses inégalités à outrance, ses profonds désaccords dans les aspirations des uns vis-à-vis des autres et nos façons de rêver l'univers. En se référant notamment au collectif Black Quantum Futurism, à Die Dinenge Deust Hakpem, Mika Rotenberg, Ito Streller, Carrie Young et Nuatama Francis Bodomo, il s'agit de reconquérir l'espace intersidéral par des propositions artistiques divergentes du discours dominant. Longtemps imaginé au gré des mythes et des légendes, aujourd'hui confronté aux résultats des recherches scientifiques basées sur les données de puissants télescopes astronomiques, l'espace n'en demeure pas moins, comme le souligne Marie-Pierre Boucher, un territoire critique qui se présente à nous comme une invitation à reconsidérer le présent et l'avenir des sociétés terrestres contemporaines. Vous écoutez « L'espace au féminin », un texte d'André-Louis Paré, paru dans le numéro 130 hiver 2022 de la revue « Espace Art Actuel ». Par conséquent, plusieurs de ces artistes cherchent à briser le moule du monopole patriarcal. C'est le cas de Bodomo, qui, dans son court-métrage, rappelle une anecdote truculente liée à un programme inouï de voyage vers la Lune imaginé par un membre de la résistance zambienne. On peut également penser au collectif Black Quantum Futurism, dont l'installation Black Space Agency 2019 revendique sur le plan de la fiction l'autonomie spatiale et temporelle de personnes noires. Dans cette optique de produire des projets artistiques basés sur des points de vue féministes, il y a aussi le collectif Radio Amatrice. Composé de 4 artistes de diverses nationalités, Radio Amatrice propose, au moyen de la radio amateur, de s'approprier un domaine des communications longtemps réservé aux hommes. Leur contribution peut se lire comme un manifeste qui incite à créer des communautés d'artistes de différents horizons. Elles invitent à considérer la radio comme technologie et moyen de communication pouvant offrir un espace en devenir. Cet espace en devenir mise aussi, de toute évidence, sur une transformation de notre vie en commun sur notre planète, notre seule véritable maison. Le texte de Fiona Anis le souligne en rappelant le projet du Museo dell'Altro et de la Trove di Metropolis, le musée de l'autre et de l'ailleurs, situé dans un édifice industriel désaffecté de Rome. Un musée qui rassemble une communauté composée d'une population diversifiée motivée d'abord par le rêve d'aller vivre sur la Lune, mais en tentant de le réaliser sur Terre, maintenant. Deux courts entretiens, dont l'un est mené seul par Marie-Pierre Boucher et l'autre en collaboration avec Annick Bureaud, termine ce dossier. Le premier est le résultat d'un dialogue avec Michel S. A. McGeoff à propos de la cosmologie autochtone. Pour ce faire, McGeoff réfère à l'œuvre « She Falls for Ages » 2016, un maquinima de l'artiste Shawn Tati qui lui permet de souligner l'histoire des origines du monde Haudenosaunee, Iroquois, transposée au sein d'un récit de science-fiction. L'autre échange a lieu avec Agnès Meyer-Brandis et porte entre autres sur son projet Cloud Core Scanner 2007, dans lequel l'artiste berlinoise introduit, dans le cadre d'un vol parabolique, un balai. Cette action de sorcière astronaute fait bien sûr sourire, mais elle suppose aussi une recherche associant des procédés scientifiques et artistiques. C'était « L'espace au féminin », un texte de André-Louis Paré, paru dans le numéro 130 hiver 2022 de la revue « Espace Art Actuel ».
Le jardinage, c'est bon pour le moral. Un texte sans auteur paru le 6 juin 2023 dans To Go. Le jardinage permet non seulement de bouger et de manger sainement, mais également de se détendre, de faire une pause dans son horaire, souvent trop chargé. Prendre soin des plantes, c'est donc aussi l'occasion de s'occuper de soi. Voici 5 bienfaits psychologiques du jardinage. Booster son moral. Le jardinage permet de s'accomplir, de ressentir une satisfaction personnelle. On éprouve une grande fierté à voir fleurir son jardin et pousser ses légumes. Quand on voit le résultat, c'est comme une petite tape dans le dos qui nous encourage à continuer. Le jardinage est aussi une activité conviviale. On n'a qu'à penser au plaisir qu'on procurera aux personnes de son entourage en leur offrant une petite partie de ses récoltes. Réduire le stress. Le jardinage détend. Il permet de faire une pause au contact de la nature. Ça fait un bien fou. En consacrant du temps à son jardin, on met de côté ses soucis. Pendant qu'on bêche ou qu'on arrose, on oublie ses problèmes. On fixe son attention sur ce qui pousse. Les mauvaises herbes à enlever, la beauté des fleurs. Jardiner est un excellent exutoire pour les émotions négatives, un calmant pour les nerfs. Qu'on s'attaque aux plates-bandes ou à son potager, l'effet thérapeutique du jardinage nous étonnera. Si on a un balcon, on peut s'amuser à faire de la culture en pot. L'effet apaisant sera tout aussi efficace. Il suffit d'un peu de verdure pour se détendre. Être dans le moment présent. Le fameux moment présent. Peu d'entre nous peuvent se vanter d'y être souvent. Le jardin est un bon endroit pour s'y exercer. Les 5 sens sont sollicités. Admirer le foisonnement de couleurs des légumes, savourer une tomate cerise, humer les herbes aromatiques, se laisser bercer par le chant des oiseaux, sentir la caresse du soleil sur sa peau sont autant de façons de ressentir la connexion avec la nature et soi-même. De plus, certaines tâches liées au jardinage ressemblent à de courtes méditations. Pourquoi ne pas pratiquer la pleine conscience pendant qu'on arrose les fleurs, qu'on désherbe ou qu'on récolte? Cultiver sa créativité. Créer un jardin ou un potager en partant de rien, varier les types et les couleurs des légumes, disposer les fines herbes de façon harmonieuse, dessiner un parterre de fleurs. On peut aménager son jardin comme on l'entend, choisir les plantes et les fleurs qu'on souhaite voir s'y épanouir, tenter différents agencements. De quoi éveiller l'artiste qui sommeille en soi. Développer sa patience. Voilà une bien belle qualité à développer, et le jardinage peut nous y aider. Pour réaliser un jardin, il faut s'organiser, faire preuve de patience et vouloir y passer du temps. On doit apprendre à respecter le rythme de la nature alors qu'on voudrait parfois aller plus vite. On découvre qu'il faut lâcher prise. On n'a aucun contrôle sur la météo, par exemple. Et malgré ses bons soins, certaines de ces plantations ne grandiront pas. On fait de son mieux et on fait confiance. Une belle leçon d'humilité. Envie d'essayer? Pourquoi ne pas débuter par la fabrication d'un terrarium? C'est peu coûteux et facile à faire. En plus, ça demande peu d'entretien et c'est apaisant à regarder. C'était Le jardinage, c'est bon pour le moral, un texte sans auteur, paru le 6 juin 2023 dans Tout Go. Ma foi décantée. Une chronique littéraire de Louis Cornélier, parue le 9 mars 2023 dans Présence, Information religieuse. Il y a 25 ans, Pierre Delocht, 1916-2007, prêtre et théologien belge, publiait La foi décantée chez Desclée de Brouwer en 1998, 194 pages. Je n'avais jamais entendu parler de cet homme avant d'ouvrir ce livre qui m'a profondément marqué. Élevé dans une famille catholique pratiquante, j'avais commencé à l'adolescence à prendre mes distances avec le message de l'Église. Trop d'éléments dans ce dernier me semblaient dépassés, coupés de la vie réelle et même, parfois, de l'Évangile. Quand il m'arrivait de contester l'Église devant elle, ma mère, disciple modèle, me rétorquait que je devais comprendre que l'Église proposait un idéal qu'elle savait difficile à atteindre, mais qu'il ne fallait pas en faire tout un plat puisque l'institution offrait aussi, du même souffle, la miséricorde aux êtres imparfaits que nous étions. Ça ne me convainquait pas vraiment. Je continuais de contester et je me demandais souvent si, dans les circonstances, cette foi, finalement, était bien la mienne. Pierre Delocht m'a éclairé en me confortant et dans ma foi et dans ma contestation. Les catholiques mal à l'aise avec certaines orientations de l'Église officielle, écrivait-il, ne sont pas de mauvais chrétiens qui s'opposent à l'autorité pour le plaisir. Tout simplement, expliquait-il, cherchant à être vivant, ils ont progressivement assumé un vécu de foi à leurs yeux plus stimulant, plus engageant, plus proche de l'Évangile. Ils cherchent non à s'opposer, mais à vivre la bonne nouvelle de Jésus. Delocht me fournissait enfin les mots dont j'avais besoin pour répondre à ma mère, notamment en ce qui concernait la morale sexuelle. L'autorité, notait le prêtre, attribue l'incompréhension de son message au fait qu'elle dénonce l'idéal. Or, c'est précisément cet idéal même qui est contesté. La sexualité en mariage seulement est dans le seul but de procréer un idéal. Le refus de l'avortement en toutes circonstances, un idéal. Le rejet radical de la pratique homosexuelle, un idéal. Le célibat des prêtres, un idéal. L'interdiction de la prêtrise aux femmes, un idéal? Je pensais que non, que l'idéal avait d'autres visages, et Delocht venait me dire, avec fougue, que ce n'était pas contredire Jésus que de contester, dans certains cas, l'Église. Une foi personnelle. Pierre Delocht a 82 ans en 1998, au moment où il rédige La foi décantée. Jean-Paul II est pape depuis 1978 et Joseph Ratzinger est son chien de garde en tant que préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi depuis 1981. Avec ces deux hommes, la liberté de penser des croyants est corsetée. Fort de sa longue expérience d'engagement et de débat en Église, Delocht, lui, choisit de s'exprimer librement. Les premières pages de son livre donnent le ton. Qui sera souverain tout du long. Après avoir confié qu'il ne prie presque plus, le prêtre confie avoir été de moins en moins enclin à attribuer à Dieu ses idées sur lui. Ses projets, ses solidarités, ses combats, continue-t-il, tout cela émane de moi, constitue ma cohérence profonde. La foi, écrit-il, est une expérience subjective. Elle est ce sentiment d'être habité en profondeur par une transcendance, par la présence stimulante de Dieu qui m'invite à me tenir debout de façon responsable et autonome. Or, insiste Delocht, nous ne savons pas qui est Dieu, raison pour laquelle ce n'est qu'à travers les autres, nos semblables, que nous pouvons, d'une certaine façon, le rencontrer. Les évangiles parlent beaucoup moins de Dieu que du prochain, constate le théologien. Y aurait-il accès direct à Dieu, sans passage au moins habituel par le prochain? Prétendre savoir exactement ce que Dieu veut, affirmer, comme le fait parfois le magistère, que nos décisions proviennent directement de l'Esprit-Saint relève de l'imposture. Ce ne sont pas les anges qui élisent le pape et qui interdisent le condon. Il faut donc, plaide Delocht, oser croire personnellement, tout en étant en dialogue avec la foi des autres et avec la grande tradition chrétienne. Le credo officiel, en ce sens, est certes une référence précieuse, mais sa formulation tributaire d'époque et de culture dépassée ne doit pas être absolutisée. Elle doit plutôt servir de piste d'envol pour l'élaboration, par chacun, de sa foi personnelle, une démarche que peine à accepter l'Église, craintive devant les interprétations plurielles. Une foi moderne. Dans la modernité, explique le théologien, tout part de nous et la morale imposée de l'extérieur est frappée de discrédit. Cela ne signifie pas qu'il revient à chacun d'inventer sa propre morale, mais plutôt qu'un travail de discernement autonome s'impose afin d'en arriver à une intériorisation de la morale. Devenir libre, explique Delocht, ce n'est pas rejeter ce qu'on m'a imposé, c'est à travers un tri personnel, agir de moins en moins parce qu'on me l'a inculqué, parce qu'il le faut, mais parce que je le perçois comme valable. Sans ce processus de subjectivation, la morale, comme la foi, manque d'armature, de sens. La modernité, en ce sens, n'est pas incompatible avec l'expérience religieuse, mais elle force les croyants à un profond décapage en les invitant à rejeter ce qui, dans leur conviction, ne convient pas à la condition humaine, afin de mieux cerner le religieux dans sa spécificité. On découvre alors, résume Delocht, que ce que l'on attribue à Dieu est en quelque sorte une dimension détectée dans l'humain que l'on croit devoir à plus grand que l'humain. Jacques Grandmaison et Fernand Dumont, en évoquant la transcendance au cœur de l'humain, ne disaient pas autre chose. Critique sévère de la tendance de l'autorité romaine à monopoliser la compréhension du message chrétien, l'essai de Pierre Delocht se termine par un plaidoyer senti pour une Église qui cesserait de croire qu'elle a prise sur Dieu et qui reconnaîtrait sa pleine humanité. L'Église, écrit le théologien, n'est pas le porte-parole autorisé de Dieu. Elle est une communauté d'hommes et de femmes en quête de Dieu, à la recherche de Dieu, qui croit que le mode de vie et le message de Jésus de Nazareth, bien avant ceux des papes et des évêques, sont des chemins d'humanité, de solidarité et de vérité. Cette Église humaine et moderne, conclut Delocht, cesserait de se croire la seule experte en humanité, ici-bas, abandonnerait sa mainmise sur la morale humaine et se remettrait à chercher la lumière en collaboration avec les autres grandes traditions éthiques, religieuses, agnostiques ou athées. La morale pour notre temps, écrit le théologien, pourrait alors s'élaborer tous ensemble et non être déduite simplement d'une révélation faite jadis une fois pour toutes. La foi de ma mère. Il y a 25 ans, après l'avoir lu, j'avais prêté ce livre à ma mère qui l'avait adoré. Quelques années auparavant, elle avait eu la chance de croiser la route de l'abbé Claude Fafard, 1935-2015, quand ce dernier avait été nommé curé à Saint-Gabriel de Brandon. Audacieux, voire hardi, ce prêtre, avec des idées semblables à celles de Pierre de Locht ou à celles de Raymond Gravel, avait bouleversé et dynamisé la vie paroissiale du village en y instaurant une antenne locale de l'église de la rue, une communauté de base dans laquelle ma mère a vigoureusement rafraîchi sa foi. En relisant le livre, aujourd'hui, je tombe sur des notes que ma regrettée maman y a inscrites au fil de sa lecture. Ça m'émeut, évidemment. Elle m'avait transmis sa foi et, grâce à Pierre de Locht, j'ai pu, à mon tour, lui offrir la mienne dans un partage pleinement humain, sans prétention à la vérité absolue. Comme le dit Pierre de Locht, je ne sais pas qui est Dieu, mais j'ai eu la chance de rencontrer des humains, comme ma mère, comme Grand-Maison, comme l'abbé Fafard, comme Raymond Gravel, en recherche de sens et de transcendance, inspiré par l'homme de Nazareth. Ces personnes que je viens de nommer ne sont plus là, aujourd'hui, mais elles sont, je le crois, toujours vivantes. C'était « Ma foi décantée », une chronique littéraire de Louis Cornellier, parue le 9 mars 2023 dans « Présence », Information religieuse.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Gilbert Lepage et Robert Chartier à la lecture, André Lebeau à la recherche, Nicolas Wartmann à la présentation et au montage.